Bonjour, chers auditeurs, soyez les bienvenus dans le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration de ce mois d'avril. C'est toujours, pour Michel et pour moi, un moment vraiment de plaisir, celui de vous retrouver, de partager avec vous et nos invités. Donc, cette émission étant en direct, vos messages sont précieux et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vous rappelle donc soit par téléphone à notre standard au 01 46 51 00 85 ou par courriel à l'adresse courtoisie@radiocourtoisie.fr. Voilà, chose dite. Venons-en maintenant à l'essentiel. J'ai choisi cette fois d'inviter une femme et un homme, tous deux auteurs, non par souci de parité, mais pour recueillir leur manière spécifique et instructive de percevoir des thèmes qui nous concernent toutes et tous, des sujets fondamentaux, à savoir la liberté, alors qu'elle soit individuelle, intérieure, personnel, spirituel, on va le voir, l'amour de l'autre avec un petit A et avec un grand A, l'amour aussi à travers le thème de la maternité et puis l'amitié. Cécilia Duterre et Michel Cole, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Pascal.
Grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je me réjouis de vous avoir tous les deux dans le studio, voilà, pour nous parler, évoquer donc ces sujets à votre manière, complémentaire, personnelle, à travers donc vos derniers ouvrages, à savoir Cécilia Duterre, Aimée d'un cœur de femme, en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine, qui est paru aux éditions du Cerf en début d'année. Vous nous proposez là un très bel essai méditation innovant, sous forme d'adresse faite à deux figures emblématiques bibliques que tout oppose a priori, mais que vous faites se rejoindre, se rapprocher dans leur amour du Christ et qui ont tant à dire à notre modernité et on le verra à notre féminité, à la famille, en tout cas à la condition féminine. Je rappelle que vous êtes romancière et essayiste, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont deux ont été récompensés par un prix littéraire. Vous êtes auteur de romans, mais aussi d'essais spirituels, dont « Est-il soum une voix dans la nuit ?», dont vous êtes une spécialiste, en l'occurrence la présidente de l'association qui lui est consacrée. Vous avez récemment, en tout cas votre dernier ouvrage, pour lequel j'avais eu la joie de vous avoir, de vous inviter, était « L'amoureuse, le roman de Marie-Madeleine », édité chez Talendier. Vous êtes aussi critique littéraire et membre de plusieurs prix littéraires. Et puis enfin, vous animez une fois par semaine donc l'émission Écoute dans la nuit sur Radio Notre-Dame. Donc une consœur que je suis ravie d'inviter. Michel Cole, je vous reçois pour deux ouvrages récemment parus complémentaires. Un roman, très réussi, votre premier d'ailleurs, intitulé « L'échappée belle du pape » publié chez Quasar et « Retrouver la liberté spirituelle » chez Salvatore, qui est rédigé sous forme d'une retraite de 5 jours à domicile afin de retrouver ce trésor qu'est le chemin de notre liberté intérieure. Alors vous êtes journaliste de presse écrite, de radio, de télévision, vaticaniste reconnu. Vous avez été également éditeur, vous animez des retraites spirituelles et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, vous aussi, premier point commun, sur des thématiques spirituelles, dont votre témoignage « Conversion en silence », bel ouvrage chez Salvatore, qui a reçu le prix de littérature religieuse en 2012. Et puis, il essaie de retrouver l'enthousiasme, également paru chez Salvatore. Voilà. Et puis maintenant, donc, de ces deux ouvrages. Tous les deux, vous nous proposez des livres variés, personnels, aux thématiques essentielles. Alors, je vous propose de commencer par vous, Michel, non par manque de courtoisie, mais pour une simplicité, thématique. Voilà, vous avez choisi de traiter le thème de la liberté spirituelle sous deux aspects. Alors, le premier sous la forme d'un roman, donc « L'échappée belle du pape », et puis l'autre, une retraite, donc un plaidoyer vigoureux et poétique, comme vous aimez à le dire. Donc édité chez Salvatore, retrouver la liberté spirituelle. Donc une fiction, un essai autour de la liberté spirituelle. Qu'entendez-vous précisément par liberté spirituelle?
Si je prenais une image, je dirais que la liberté spirituelle, c'est la capacité de respirer le fond de l'air qui est en soi. On respire beaucoup l'air extérieur. Alors aujourd'hui, il fait un peu frais. Là, en venant, j'ai eu peur d'attraper un rhume. Je me dis, mon Dieu, je vais avoir le ton nasillard. Non, c'est une plaisanterie. Mais oui, le fond de l'air qui est en soi. On oublie qu'on a en nous un air particulier et qui pour moi symbolise bien la liberté spirituelle. C'est un peu ce qui fait que chacun, nous sommes différents les uns des autres, chacun nous avons une personnalité propre, chacun nous avons un chemin spirituel, un chemin de vie différent, et en même temps nous sommes tous des humains, participant tous à la même communauté humaine, mais il y a quelque chose, ce vibrato singulier qui fait que toi tu es toi et moi je suis moi, et que nous sommes faits pour nous rencontrer. Et je crois que c'est ça la liberté spirituelle. Et je trouve que nos contemporains aujourd'hui ont tendance à oublier ce fond de l'air qui est au fond d'eux-mêmes. Et ils respirent beaucoup l'air ambiant, et Dieu sait que cet air fait des écumes, parfois nous fait tourbillonner, on ne sait plus où on en est, nous vivons dans une société de l'information permanente qui fait qu'on a du mal parfois à s'arraisonner soi-même sur une idée, sur un sentiment. Et je crois que ce fond de l'air qui est en nous, nous rappelle que nous avons en nous la capacité de discerner, la capacité de penser, la capacité de rêver, la capacité d'aimer, la capacité de s'émerveiller. Enfin bref, je pourrais faire une litanie de verbes qui font que nous existons aussi, je dirais pas que par nous-mêmes, mais par ce fond de l'air que nous avons reçu en naissant.
Est-ce que ce fond de l'air est ce plus grand que soi que l'on porte?
Ah oui, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Oui, tout à fait, Pascal, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un fond de l'air qu'on a en soi, mais qui nous dépasse, qui nous enveloppe. J'aime bien l'image d'être enveloppé finalement par quelque chose qui, en même temps, est en nous. C'est très... Je pense que Cécilia pourrait en parler mieux que moi. Elle est femme. Mais je veux dire, c'est quelque chose
elle
qui est de
parler.
L'ordre. Oui, nous sommes dans une orbite spirituelle, finalement.
Alors que vous associez, bien sûr, à la liberté, à la vie intérieure.
Ah oui, la vie intérieure, justement, pour moi, c'est le feu qui attise cette liberté spirituelle. C'est dans ma maison, à la campagne, nous avons la chance d'avoir deux cheminées. Et régulièrement, nous aimons bien allumer le feu de cheminée, des grandes cheminées.
Quel bonheur!
Oui, c'est un bonheur. Et pour moi, c'est là encore une image parabolique de ce feu qu'il faut entretenir en nous, l'animation de sa vie intérieure, de sa liberté intérieure. C'est aussi de ce combustible qui sert à alimenter ce feu et qui nous vient de nos rencontres, qui nous vient de nos lectures, qui nous vient de nos méditations, qui nous vient de nos promenades solitaires, qui nous vient de tout ce qui justement nous aide à vivre et surtout à être en phase avec ce fond de l'air qui est en nous et qui fonde notre liberté.
Alors, tellement fondamental pour vous et en soi que vous lui avez consacré donc deux ouvrages. Le premier, un roman, votre premier roman.
Oui, oui.
Alors, comment, pourquoi un roman?
Eh bien, j'ai beaucoup tremblé en l'écrivant, mais j'ai beaucoup tremblé avant de le faire, et en l'écrivant j'ai eu une immense joie. J'ai découvert que l'imagination, l'imaginaire, c'est extraordinaire de pouvoir patauger allègrement là-dedans, comme que j'étais comme un enfant dans une mare.
Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à...
Oh, une immense liberté. J'ai découvert des capacités extraordinaires de créativité, d'imagination que je ne soupçonnais pas. On m'a rappelé que quand j'étais enfant, j'avais beaucoup d'imagination, donc je pense que c'est lié aussi à mon tempérament, à ma personnalité. Mais j'avais jamais sauté le pas. Et là, le fait de pousser par une éditrice, comme quoi c'est important parfois d'avoir des éditeurs, des éditrices qui vous poussent. Mais si, fais-le. Et là, j'ai sauté. Vous savez, comme dans Mary Poppins, on voit un moment les personnages qui sautent sur un dessin, là, qui ont dessiné dans la rue, et puis ils plongent dans un monde. C'est un peu ce que j'ai fait. Et ça a été extraordinaire pour moi, et j'ai très envie d'en réécrire.
Ah, alors il s'agit d'une belle histoire, hein, une fable pleine d'espérance, de fraîcheur, d'humour, tout en traitant de sujets sérieux qui se lient d'un bout à l'autre, hein, et qui fait du bien. Est-ce que c'est là le but de ce livre?
Oui, aussi je pense que le roman, L'échappée belle du pape, c'est comme une sorte, je dirais qu'un roman de ce genre-là, c'est une sorte de facétie, mais une facétie qui est une fable, et qui en même temps fait beaucoup de clins d'œil à notre monde, à notre actualité, à nos préoccupations. C'est un peu comme, je le compare à une cour de récréation. Finalement, une cour de récréation, c'est un lieu où, comme beaucoup des enfants. Hein,
mais... Et vous parlez des enfants dans le livre, dans
oui,
le roman
parce
d'ailleurs.
Que pour moi, on en parlera sans doute. La liberté, c'est aussi retrouver l'enfance spirituelle, bien sûr. Mais dans une cour de récréation, on joue avec ses camarades, on joue à la marelle, enfin on ne joue plus à la marelle maintenant, mais enfin on court, on fait des tas de jeux, enfin, voilà. On se distrait et finalement on apprend la vie. On apprend l'altérité, on apprend l'émerveillement de la nature, on apprend plein de choses. Et je trouve qu'un roman, enfin en tout cas le roman tel que je l'ai conçu, bien humblement, parce que quand on me dit roman, moi je passe à Balzac, à Mauriac, enfin je suis très, voilà, c'est pour ça que longtemps j'ai hésité à vraiment me lancer dans cette filière, si je puis dire, parce que le roman pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire, magnifique. Mais pour moi, ce petit roman que j'ai accompli, c'est une forme de... J'offre une cour de récréation au lecteur, où tout en se distrayant, finalement, il va peut-être essayer d'approfondir un certain nombre de questions.
Voilà. Alors, justement, qu'est-ce que se passe-t-il au Vatican?
On ne peut pas tout raconter.
Non, mais juste le début.
Bon, c'est... En gros, je n'ai pas été très loin pour m'inspirer parce que le thème a été très pillé par des auteurs avant moi.
On le rappelle, L'échappée belle, le titre.
L'échappée belle du pape, donc c'est le récit finalement d'une disparition soudaine, imprévue, imprévisible du pape un jour.
Et inexpliqué au début.
Il n'est plus là. Donc évidemment, panique au Vatican, mais pas seulement au Vatican, mais dans le monde entier, parce que le pape a un pouvoir d'influence considérable encore aujourd'hui sur notre planète, et donc sa disparition crée un vide absolu. Et donc un grand désemparement, je ne sais pas si c'est français, c'est un néologisme peut-être, je ne sais pas. Enfin, le monde entier est désemparé, il y a un désarroi, en premier chef au Vatican, parce qu'on ne sait pas du tout où est le pape. Alors c'est vrai que ça m'a permis d'imaginer, finalement, qu'un pape pouvait, comme tout être humain, être frappé de plein fouet par la maladie du siècle, c'est-à-dire un spleen, comme aurait dit Baudelaire, mais là, c'est un coup de pompe, comme on dit familièrement, un moment de détresse profonde.
De dépression,
voilà, je cherchais le mot, merci Pascal. La dépression qui est quand même le mal contemporain. Et ce pape, finalement, toute l'histoire, c'est comment ce pape, cet homme, va trouver la force de surmonter cette dépression qui est en train de le happer et de l'attirer vers les bas-fonds. Alors là, ce n'est pas le fond de l'air.
Non, là, c'est pas exactement. Alors, je vous cite d'ailleurs, ou je vous cite le citant, parlant de son état, c'est comme il a des mots quand même très forts. « Je n'ai plus la force de suivre le Christ. Ce qu'il me demande de porter est inhumain. Je me sens trop prisonnier de moi-même, encagé dans ma veulerie et mes faux-semblants. Je suis indigne de continuer à faire le pape enthousiaste. » Parce qu'un pape doit être enthousiaste, doit exprimer la joie.
Les papes de l'ère médiatique, en tout cas, qui doivent aussi, par leur image, transmettre quelque chose de la joie de l'Évangile, comme dit le pape actuel, ils sont nécessairement obligés, contraints, d'une certaine manière, à forcer parfois même leur personnalité. Je pense à Benoît XVI qui avait beaucoup de mal à forcer sa personnalité, mais il faut témoigner de cette joie. Hein. Et donc, quand vous ne pouvez plus l'assumer physiquement, intellectuellement, psychologiquement, mais c'est terrible. J'ai toujours dit que le métier de pape, c'était le pire métier du monde. Enfin, le plus beau, sans doute, mais c'est le plus difficile à accomplir, parce que vous êtes sous le regard permanent du monde, et chacun de vos gestes, chacune de vos paroles est scrutée comme c'est comme un rébus, il y a un message à chaque fois. Donc vous ne pouvez pas vous permettre
de dire n'importe quoi,
ou de faillir. Et donc, personnage, en effet, ne se sent plus capable du tout d'assumer cette...
Alors c'est vrai qu'il y a cette notion de vulnérabilité, qu'il est humain, et on sent que c'est une notion importante pour vous, comme l'humilité d'ailleurs, peut-être les deux...
Ça va de pair, c'est la même racine, humus.
Voilà, c'est un homme quand même, un homme libre, alors justement on en revient à cette notion de liberté, d'abord libre dans sa façon de vivre, dans son mode de fonctionnement.
Oui, il est libre parce qu'il est resté lui-même. Alors on revient au thème de la liberté spirituelle. Je crois que vous pouvez avoir les titres les plus glorieux, vous pouvez avoir une chance, des chances extraordinaires dans votre existence, faites des rencontres fabuleuses, vous faites des voyages extraordinaires. Enfin, vous avez une renommée, je dirais, qui crée des envies, même des jalousies, mais vous restez toujours celui que vous avez été. C'est ce qui caractérise mon personnage. C'est-à-dire, je fais dire à un moment par son éditeur, finalement, cet homme-là, il a changé d'habit, mais il est resté le même. Et je crois que ça, c'est une des caractéristiques de l'homme spirituel, et de l'homme libre, ou de la femme spirituelle, et de la femme libre. C'est-à-dire qu'on change de vêtements, parce que les circonstances changent, l'histoire change. Les saisons changent, mais vous portez des vêtements, mais vous êtes toujours la même personne, vous êtes toujours fidèle à vous-même et fidèle aux autres qui vous regardent aussi.
En sachant qu'il y a quand même aussi une évolution possible, et ça on le verra avec le personnage de Marie-Madeleine.
Oui.
Alors il s'adresse quand il, lors de son élection, d'ailleurs il dit, il s'adresse à la foule, des chrétiens, en disant « nous allons réapprendre à vivre libre dans la foi ». Donc là c'est une liberté vécue dans la foi.
Dans la foi, oui, parce que la foi est une libération, elle n'est pas une... On a longtemps cru que l'ascèse, qui est un beau mot, l'ascèse, c'est-à-dire suivre une règle de vie, qu'on peut écrire pour soi-même d'ailleurs. Je trouve ça très beau, les gens qui ont écrit leurs règles de vie. Et puis il y a des règles de vie pour les monastères, il y a des règles de vie religieuses, il y a des règles de vie aussi, des règles de vie dans une entreprise. Il y a des règlements, comme on dit. Je trouve que ça permet de... C'est bien d'avoir des limites. Non pas de se limiter, c'est pas pour se limiter, c'est justement pour se grandir.
Et pour se construire.
Et pour, voilà, c'est ça. Mais malheureusement, un certain nombre de croyants se sont parfois corsetés dans les limites. Se sont complètement corsetés. Et du coup, l'image qu'ils renvoient de Dieu, c'est un Dieu exigeant, contraignant, qui fait peur. Et donc, ce pape-là, mon personnage-là, veut absolument que les chrétiens retrouvent la liberté. La liberté de...
S'il y a du terre, j'aimerais votre réaction face à cela.
Sur le fait que, oui, c'est vrai, et après, Dieu, c'est bien plus qu'une morale, en fait. Et c'est vrai que si on le réduit uniquement, ça l'inclut. Ça inclut effectivement des valeurs, ça inclut une ligne de vie, une conduite de vie. Là, je vous écoute, Michel, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a, je ne pourrais pas dire de règlement, mais on a effectivement une conduite normalement qui devrait être le plus en adéquation avec nos valeurs. Mais bien sûr, Dieu, c'est infiniment plus large que ça. Et la relation, l'essence de la relation entre l'homme et Dieu, c'est effectivement... beaucoup plus large que des règles à respecter, effectivement. C'est dommage de le réduire à ça.
Dieu, il y a un psaume qui dit « Dieu est plus grand que notre cœur ». Et je rajoute souvent, moi, un verset, « Dieu est plus grand que nos normes ».
Mais il en faut un minimum aussi.
Mais Dieu est plus grand que nos normes. parce que nous sommes des humains.
Et oui.
Nous sommes des enfants terribles, alors il nous faut des normes. Mais lui, il n'a pas besoin de normes.
Exactement. Alors, donc Michel, il y a d'autres personnages. On ne va peut-être pas en parler. On laissera nos...
Et puis, il ne faut pas tout dire.
Nos auditeurs les découvrir. Je voudrais juste m'arrêter sur un point. J'ai apprécié en tant que lectrice la façon dont vous décrivez comment le Vatican réagit finalement. Donc, en redevenant le centre du monde, comme vous le disiez tout à l'heure, face à cette rumeur d'abord, puis ce coup de tonnerre, puis panique. Il va y avoir vraiment un vent de panique. Et surtout, le point sur lequel je voudrais revenir, c'est comment arriver à gérer la disparition inédite et déstabilisante du pape, surtout au tout début, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'il n'a pas donné de signe de vie. Est-ce qu'il y a vacance du siège apostolique ou pas? Parce que ça, c'est quand même un problème qui se pose et qui est tout à fait intéressant. Ouais. Je vous cite juste, voilà. Pour qu'il y ait vacance du siège apostolique, il faut que puisse être acté le décès du pape régnant, ou bien que celui-ci ait reconnu son incapacité à gouverner, ou bien, s'il n'avait plus les moyens physiques et intellectuels de le faire, qu'il soit reconnu et déclaré inapte par les autorités médicales et hiérarchiques du Saint-Siège. Voilà. Or là, ce n'est pas le cas.
On n'a jamais prévu dans l'histoire, on n'a jamais prévu, si vous voulez, qu'un souverain pontife décide de faire une fugue. Ça ne s'est jamais produit, Donc c'est vrai que le droit canon, ou alors on ne l'a pas su. Ce qui peut être l'objet d'un autre roman. mais c'est vrai que donc le droit canon, les canonistes n'ont jamais pu envisager qu'un pape puisse comme ça un jour disparaître des écrans, si je puis dire. Et donc, du coup, il y a un vide juridique à ce sujet.
Alors, vous m'avez confié hors antenne que l'actuel pape, le pape François, avait commencé à prévoir peut-être...
Alors, non,
il n'a pas prévu.
C'est pas tout à fait ça, mais c'est-à-dire que non, il a prévu, lui, je pense, de revoir la situation du pape qui, en effet, se démet de ses fonctions pour des raisons médicales ou des raisons de fatigue. On l'a vu ça avec le pape Ratzinger, Benoît XVI. Ouais. Il a essayé de revoir ça avec des canonistes pour que les choses soient un peu plus agencées. Parce que là, on l'a fait dans l'immédiateté de la renonciation du pape Benoît XVI.
D'accord.
Donc je sais par exemple que les canonistes seraient plus favorables à ce qu'un pape comme ça qui se retire pour des raisons valables, si je puis dire des raisons, ne soit plus... On ne parle plus de lui comme de pape émérite,
ouais,
mais comme d'évêque de Rome émérite, pour ne pas laisser... une ambiguïté sur le fait qu'il y ait un pape émérite et un pape en exercice. Ça veut dire qu'il y a deux papes. Donc, pour éviter cela, c'est pas que sémantique, hein, ça va plus loin. Mais voilà, donc je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Mais peut-être qu'on n'aura pas besoin, puisque le pape François a l'air de vouloir rester fermement à son poste, enfin, tant qu'il a encore... l'esprit, la force et l'envie. Je crois qu'il a encore envie. En plus, ça se sent, il a envie. Donc voilà, après... voilà.
Dieu seul le sait. Je voudrais en revenir aussi à ce monde de l'enfance. Parce que vous faites vraiment référence à de nombreuses reprises aux enfants, notamment vers la fin, une scène très bouleversante, très, très émouvante. C'est votre part d'enfance, l'importance de l'enfance chez vous? C'est l'enfant que vous êtes toujours.
C'est beau ce que vous me dites, parce que ça m'émeut, parce qu'en même temps, j'ai perdu un grand ami là, cette semaine, qui s'appelait Dominique Ponneau. Dominique Ponneau, qui était directeur d'école du Louvre, qui est un grand monsieur, qui s'est beaucoup battu pour la défense du patrimoine religieux français. Et il m'avait dit un jour, Michel, vous êtes un grand enfant. Mais j'avais pris ça comme un très grand compliment, parce qu'il m'avait dit, mais vous êtes resté un enfant, alors, l'enfant spirituel. Enfin, et bon, pour moi, j'ai pris ça vraiment comme un très grand compliment. Et oui, je pense que je suis très bernanosien pour cela aussi. C'est-à-dire que Bernanos, je ne peux plus citer de mémoire cette phrase magnifique où il dit que finalement, toute la vocation d'un homme ou d'une femme, c'est finalement d'aller au bout de sa vie, mais de faire la boucle nous ramène à l'enfance. C'est-à-dire... redevenir l'enfant que j'étais.
Ouais,
voilà.
Ouais,
c'est une phrase magnifique de Bernanos. Et je pense, mon expérience personnelle, c'est que c'est ce que je suis en train de vivre. Enfin, je le vis depuis un moment, mais je suis pas encore trop vieux, hein, mais attention, faut pas.
Nos auditeurs ne nous voient pas encore, mais je le confirme.
Mais je pense que c'est beau ce chemin où, pendant un moment dans notre existence, on a envie de s'exiler de l'enfance. On a envie de prouver qu'on est un adulte, qu'on sait faire des tas de choses, qu'on va étonner le monde. Et puis, quand le jour où vous vous êtes rendu compte que vous avez plus ou moins bien étonné le monde, on ne sait pas très bien, les gens ne savent pas bien. En tout cas, vous avez quelque part envie de retourner un petit peu à la maison d'où vous venez. Alors moi, c'est le chemin que j'ai fait aussi, parce que maintenant, je vis dans la maison où j'ai passé ma jeunesse. Mais,
Oui,
mais c'est vrai que... Je crois que c'est le pèlerinage, au sens où Dante, d'ailleurs, en parlait aussi. La vie, c'est un pèlerinage. Et un pèlerinage, c'est un retour aux sources.
Ah.
C'est des sanctuaires, c'est un retour aux sources.
Joli mot, Cécilia.
Ben oui.
On peut-être toujours se demander si on est fidèle, justement, à cet enfant.
Voilà.
Si on a été fidèle à ce qu'on était, tout petit. Et puis aussi, l'enfant, pour moi, c'est le regard d'émerveillement qu'on porte sur la vie, la joie, en fait, la joie pure, qu'on perd un peu après ce tempérament fondamental qui est très... voilà, vous parliez tout à l'heure de l'air ambiant qui peut parfois nous dissiper, mais peut-être que justement l'enfant il est logé dans ce que vous disiez tout à l'heure, dans ce centre.
Oui.
Moi je dirais le centre, pour parler de liberté intérieure, le centre de l'être qui est cet air, ce grand frais dont vous parliez tout à l'heure, de cet air qu'il faut aérer et nourrir. Et ben voilà, il part de l'enfance.
Alors on a la chance quand on est grand-parent, ce qui est ma chance d'avoir deux petits-enfants, c'est d'être aéré.
Oui, c'est sûr.
D'être aéré en permanence.
Surtout quand ils sont petits.
Enfin, ils ont 10-13 ans, mais quand même.
Et même,
Moi, je suis émerveillé.
Et alors, une chose importante.
Émerveillé par ce rapport avec les enfants.
Ah, ça, je le comprends. Et quand vous parlez justement d'enfance, quand nous le parlons, entendons-nous bien, il ne s'agit pas justement de l'image véhiculée mais d'une non. certaine puérilité, non, comme ça peut l'être ou ça l'a été. Là, il s'agit vraiment de l'enfant dans tout son sens. Oui. Et c'est pourquoi j'insiste un peu. Alors,
l'enfance, c'est ce que disait très bien Cécilia, c'est-à-dire cette aptitude extraordinaire à l'émerveillement, c'est-à-dire avoir d'abord le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que j'ai l'impression que plus on vieillit, quand on est adulte, pris dans les mouvements, la maïotique du monde, enfin, tout ça, la mayonnaise, j'allais dire.
Les problématiques.
Ah, on ne regarde que la bouteille qui est toujours à moitié vide. L'enfant lui dit, ah oui, mais elle est à moitié pleine, la bouteille. Et je crois que pour moi, c'est aussi l'enfant spirituel, c'est ça, c'est une espérance. C'est garder au frais l'espérance qui nous anime depuis qu'on a fait pousser notre premier cri en sortant du ventre de notre maman.
Alors, pour savoir si notre pape Jean-Baptiste, d'ailleurs j'avais oublié de le nommer, eh bien, va réussir à surmonter cette crise, pour revenir en plus à la Pentecôte, parce que sans oublier de le dire, il est parti juste avant la Pentecôte, donc ce qui rajoute encore à l'intensité dramatique des choses. Eh bien, chers auditeurs, bien sûr, lisez le livre de Michel Cole, donc L'échappée belle aux éditions Quasar. Et puis finalement, dans votre livre, donc, on parle de joie de vivre aussi, et qui est liée à la joie de croire. Et le thème en filigrane n'est-il pas, comme vous venez de le dire d'ailleurs, c'est comment restaurer sa liberté intérieure lorsqu'elle semble nous avoir désertés. Oui. Et c'est là le sujet, je pense, hein, de votre second ouvrage. Donc, retrouver la liberté spirituelle chez Salvatore, chez nos amis de Salvatore, dont vous avez été éditeur. Et qui fête cette année son centenaire,
c'est un bel âge.
C'est un bel âge, soulignons-le. Vous nous proposez donc, sous forme d'une retraite, une retraite à domicile, 5 jours. Oui. C'est pas long, mais c'est dense.
Ça fait une semaine.
Un cheminement, une école de libération à la lumière de belles figures, telles à Saint-Paul, Charles de Foucault, Peggy, Sainte-Thérèse de Lisieux.
Des gens moins connus,
Paul VI aussi, pour lequel vous avez une affection toute particulière. Et puis aussi à travers quelques-uns de vos articles, ce qui fait, je trouve, de votre ouvrage, un livre très, très expérimental.
Oui, ça me plaît beaucoup. Oh, ça me plaît ce que vous dites. Oui.
Ah bah merci, j'en suis
ravie. Ah oui, oui, parce que je crois que, j'aimerais bien entendre Cécilia là-dessus, mais je crois vraiment que la vie spirituelle, ce n'est pas une lévitation. C'est la vie, c'est de la vie, c'est une expérience. C'est pas. Et j'ai l'impression que parfois, on parle de la spiritualité comme de quelque chose d'un peu gazeux, vous savez,
quelque chose qui est éthéré.
Oui, éthéré, on ne sait pas très bien, c'est un peu comme ça. Non, non, non. La vie spirituelle, elle est incarnée ou elle n'est pas. La vie spirituelle, en plus, pour ceux qui se réclament de la tradition chrétienne, c'est quand même le verbe qui s'est fait chair. Enfin, et là, on va en parler tout à l'heure, je pense, avec Cécilia,
parce que
s'il y a bien un livre incarné, le ciel nous rappelle que la foi chrétienne, c'est une incarnation radicale. Donc, et je trouve que dans notre société contemporaine très matérialiste, très commerçante, enfin tout ça, on a tendance maintenant à ranger le spirituel dans ce qui est le vaporeux et l'éthéré, quoi. Non, 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 pas du tout. Et ça, moi, ça fait partie de mes combats. Et c'est pour ça que ce livre-là est en effet un livre qui se veut expérimental. Le livre, en effet, oui. Retrouver la liberté spirituelle. C'est pour ça que j'ai bâti ça en cinq étapes, proposer au lecteur que lui-même fasse l'apprentissage de retrouver ce fond de l'air au fond de lui, ce fond de l'air qui devrait lui permettre d'être lui-même, d'être elle-même, vraiment, et pas seulement à la remorque des idées dominantes, pas seulement à la remorque des modes.
Comme cela fait du bien entendre.
Je n'aime pas, il y a quelque chose qui m'agace, c'est de me retrouver devant quelqu'un qui devenait un petit remorqueur. Alors ça c'est quelque chose,
si
mais ça m'agace.
Alors justement, je voudrais qu'on en parle, parce que ça, vous le dites. Vous le dites notamment dans donc cette première étape qui est discernée. En fait, ce sont des constats aussi que vous faites, notamment à travers cela. Le petit remorqueur, est-ce que c'est bien l'ultra-crépidarianisme dont vous parlez?
Vous l'avez très bien dit.
Je
n'oserais pas le répéter, parce que c'est un mot compliqué.
Qui existe et qui veut dire.
Et ben, ça fait des ravages dans les médias, c'est-à-dire vous invitez des personnes, soi-disant, qui spécialistes, ils parlent de tout sans savoir de quoi ils parlent. C'est-à-dire, ce sont des prétentieux, des imposteurs. Il y a un autre mot très, très fort, c'est l'imposteur. Beaucoup d'imposteurs aujourd'hui qui viennent vous parler de tout et de rien comme s'ils étaient experts en tout et en rien. Je trouve que c'est quand même une supercherie monstrueuse. Et alors là, là, faut se prémunir contre ce péril-là, parce que si en effet on a besoin d'experts en permanence pour savoir ce qu'on doit penser ou ce qu'on doit manger ou comment on doit croire ou je ne sais quoi. Non, je crois que là, on est devant quelque chose de très très dangereux aujourd'hui dans la société. C'est pernicieux, hein. C'est une forme de dictature, j'allais dire, d'une forme de soumission à une doxa. Alors, j'en prends un mot intellectuel un peu savant là, mais d'une opinion comme ça préfabriquée par une élite médiatique. Allez, j'y vais là, hein, et qui vous abreuve de qui abreuve nos sillons, hein, de leur langage, de leur logorée, de leur lamentation, de leur scandale, de leur et je trouve que là il y a une résistance spirituelle même à opposer à cela.
Ça c'est un mot intéressant, vous l'employez pas dans votre livre, mais c'est un mot très intéressant.
Non, c'est un peu curieux de ma part parce que c'est un mot que j'aime beaucoup. Pendant une période qui a beaucoup compté dans ma vie, j'étais rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Témoignage chrétien, qui pendant la guerre avait été un journal de la résistance spirituelle. Et donc c'est un thème que j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus. La résistance spirituelle, ça fait partie aussi du bagage de l'homme libre et de la femme libre.
Alors, vous constatez encore des constats forcément négatifs, puisque finalement, votre souhait, c'est de réagir contre cet état-là. Le fait qu'on ne sache plus voir, au tout début, vous écrivez même « voir ». Dans le monde saturé d'apparences dans lequel nous vivons, il est impératif de réapprendre à voir avec son regard intérieur, à délester son œil de tout son pesant d'images superflues, à regarder non pas à la sauvette, mais avec gratitude, avec grâce. Parce que beaucoup de gens, finalement, maintenant, marchent dans la rue en regardant leurs pieds ou en faisant leurs trucs.
Mon livre commence comme ça. Ouais, c'est-à-dire, ça. Vous croisez des personnes qui ne vous voient pas, qui ne vous regardent pas. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent leurs écrans. Ils sont sur leurs écrans. Ils sont comme aimantés par la luminosité de leurs écrans. Et c'est comme ça qu'on on aboutit à des accidents dans Paris, où les gens sont renversés comme ça par des personnes. Moi, j'ai un de mes collègues, un ancien collègue de Salvatore, a eu l'oreille arrachée comme ça par quelqu'un qui ne l'a pas vu. Mais quand même, moi, je trouve que là, je dis halte danger. Quand on n'arrive plus à voir une personne, un être vivant qui marche devant vous, que vous ne voyez pas parce que vous êtes noyé dans vos messages, vos mails et tout ça, je me dis que là, ça devient dangereux. Là, il y a la cote d'alerte.
Alors, autre dérive, c'est la dérive de la société en société du spectacle émotionnel, en société donc de la polémique perpétuelle qui finalement laisse peu de place au vrai débat et à la liberté d'expression. Et à ce sujet, Cécilia Duterte, je voulais juste votre avis, parce que dans votre livre dont nous allons parler, Aimer d'un cœur de femme, donc en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine aux éditions du Cerf, vous évoquez également des problématiques actuelles un petit peu brûlantes, on va dire, comme l'IVG, qui a d'ailleurs été récemment, comme on le sait, inscrit dans la Constitution, le gender, le féminisme radical actuel et bien d'autres. Comment a été reçu justement vos livres en dehors de milieux, dirons-nous, comme plus chrétiens, voilà. Est-ce que vous avez senti une hostilité de ce genre ?
Alors, je n'ai pas senti d'hostilité parce que, en fait, dès qu'on n'est plus dans la doxa, là, j'écoute Michel et je m'abreuve à ses paroles. En fait, il y a une façon très, très facile d'évacuer le sujet, c'est de ne pas en parler. Voilà. Donc, j'ai été très, très, très suivie et j'ai vraiment eu beaucoup de presse et de radio et je suis ravie d'être sur vos ondes aujourd'hui après les radios confessionnelles et journaux confessionnels. Quelques journaux, quand même, comme Psychologie Magazine, j'étais aussi interrogée sur Europe 1. Enfin, il y a eu quand même des possibilités. Même. Oui. Et puis après, beaucoup de lieux quand même où j'ai pu faire des rencontres ou des conférences qui ne sont pas des lieux confessionnels. Donc quand même, je ne veux pas du tout exagérer, on a encore le droit de s'exprimer. Mais c'est vrai que ce sont des sujets un peu, moi, en tout cas, je les aborde pas non plus de façon radicale, mais j'interroge, en fait. J'interroge l'époque sur justement cette doxa. Est-ce qu'on est obligé de penser exactement ? Et si on pense exactement comme on nous dit de penser, qu'est-ce que les grandes figures bibliques ont à nous dire justement sur cette façon d'aborder les choses, notamment sur la féminité, l'émancipation, etc.
C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Alors, cher Michel, je crois qu'il est l'heure de nous identifier.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration du jeudi 18 avril 2024, dirigé par Pascal Morer, assisté de Michel. Le thème de l'émission est « Lorsque liberté, amour et amitié entrent en résonance ». Nos invités sont Cécilia Duterre, romancière, essayiste, pour son ouvrage « Aimer d'un cœur de femme », en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine, publié en début d'année par les éditions du Cerf, et Michel Kuhl, journaliste de presse écrite, de radio et de télévision, et auteur de deux ouvrages récemment publiés, L'échappée belle du pape, édité par les éditions Casar, et Retrouver la liberté spirituelle, publié chez Salvator.
Merci beaucoup, cher Michel. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, vous avez l'air absolument subjugués par Michel Kuhl et par Cécilia. N'hésitez pas à réagir à notre standard au 0146 51 00 85 ou par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Voilà qui est dit. Alors, Michel, pour en revenir à cette liberté, vous vouliez dire quelque chose peut-être ?
Oui, je voudrais prolonger un peu ce que vient de dire Cécilia. Je pense que, on parlait de résistance spirituelle, mais je pense que ça se travaille. Je crois qu'aujourd'hui, pour résister à cette déferlante d'idées préconçues, de dictates à la mode, de propagande permanente, décidée par on ne sait qui décide. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille. Je suis parfois un peu inquiet devant certains ou certaines qui baissent les armes, enfin, je dirais, les stylos, la réflexion.
Ce n'est pas le cas ici. Hein.
Non, mais je crois vraiment qu'il faut travailler. Ouais. Je pense que notamment dans l'Église catholique, où je suis beaucoup de chrétiens qui ne travaillent plus beaucoup.
Ah, c'est sûr.
Il faut
un courage.
Je pense qu'il faut travailler. Il faut travailler la théologie, il faut relire,
il faut relire
les auteurs, il faut s'ouvrir au monde, il faut revisiter les sciences, il faut multiplier les dialogues. Il ne faut pas dire simplement c'est une horreur, c'est affreux, voilà, ce qui se passe. Il faut travailler. Ouais. Il faut travailler et je dirais qu'il faut faire peut-être naître un nouvel état d'esprit, un nouvel esprit critique.
Un esprit critique. Et ça, vous le dites bien dans votre livre. Vous dites la nécessité de renouer avec cet esprit critique.
Absolument.
Qui lui-même a besoin bien sûr de retrait, de prise de distance, de solitude. Et vous évoquez d'ailleurs saint Paul, pour qui la vie spirituelle était l'équivalent, qui comparait à une course de stade. Et dont l'entraîneur, l'Esprit Saint. Voilà. Et puis, autre chose encore aussi, pour lutter contre cela, c'est l'importance d'une unité de vie. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il s'agit de relier en permanence la foi et la vie profondément complémentaires. Et vous dites d'ailleurs qu'il est très important. Donc, à ce sujet, vous citez la Vierge Marie. Voilà. La Vierge Marie, je la retrouve. Voilà, je retrouve. C'est une prière. Oui, ça, j'ai oublié de le dire. Et c'est important. Dans votre essai, donc dans votre retraite, il y a aussi chaque étape et se termine par une prière, une de très belle qualité de votre plume. Et il y en a une qui s'intitule « Prière en faisant ma crèche ». Je ne la lis pas en entier, on n'a pas le temps, mais là, je reviens sur... Voilà. « J'ai demandé à Marie de me pourvoir du courage de la nuance quand je juge les autres et les événements. Elle qui n'est compris pas toujours les agissements de son fils, qu'elle m'instruise de sa sagesse consistant à faire la part des choses sans perdre de vue l'essentiel et en faisant confiance. » Important. Alors, Cécilia Duterre. Donc là, je voudrais votre intervention. Peut-être qu'on peut commencer un petit peu à aborder votre livre dans sa toute première partie qui est la présentation de tout ce qui oppose radicalement la Vierge Marie et Marie-Madeleine. Et vous dites notamment en matière d'état intérieur, elles sont radicalement opposées, c'est-à-dire que Marie est unifiée, et ça vous l'écrivez bien, et je vous cite, la division intérieure t'est étrangère. Alors oui, vous les tutoyez. côtoyer ces femmes. Donc, chers auditeurs, n'y voyez pas de la familiarité. C'est au contraire, vous vous adressez à elles comme des sœurs, vraiment, hein, des amies intimes et profondes. Donc, la division intérieure, t'es étrangère, tu vis conformément à la vérité de ton être, dans une intégrité et une sincérité absolue, alors que Marie-Madeleine est complètement désordonnée au début.
Oui, en fait, elles ont deux. Alors, elles ont des tempéraments très, très différents, évidemment, mais elles ont surtout des conceptions. Alors, puisqu'on parle de la liberté, elles ont des conceptions de la liberté fondamentalement, évidemment, opposées. Et la Vierge Marie, bah, finalement, sa liberté, elle comprend très, très vite à l'Annonciation que sa liberté, c'est de consentir à une loi plus grande qu'elle-même, cette loi de Dieu.
Elle est Immaculée Conception.
Absolument. Et je la prends vraiment comme l'Évangile la présente, c'est-à-dire comme une icône, l'icône qu'elle est, parce que justement, je la trouve intéressante dans cette... Alors, on peut la prendre comme une figure de foi, ce qui est mon cas, mais on peut aussi la prendre comme un archétype féminin. Et dans cet archétype-là, elle est intéressante parce que justement, elle n'est pas divisée, elle est sans péché, elle est immaculée conception. Et surtout, elle a cette compréhension profonde que au-delà de sa trajectoire terrestre, quelque chose de beaucoup plus grand habite l'existence et habite son cœur, qui est donc la, on va dire, la vie majuscule, la grande vie, la vie en Dieu, et qu'elle respecte. Et sa liberté, c'est de consentir librement, en pleine conscience, à cette loi plus grande qu'elle-même. Et puis, en miroir inversé, on a la liberté que... Alors, Marie-Madeleine, c'est deux étapes. Si on prend Marie-Madeleine dans sa première étape, quand elle est la courtisane, la pécheresse anonyme...
C'est la liberté personnelle.
Là, elle est dans la liberté individuelle poussée à son extrême, et qui est un peu... même beaucoup, le défaut de l'époque. C'est aussi en cela que je trouve qu'elle est très intéressante comme personnage aussi, parce que la conception qu'elle a de la liberté, c'est la liberté individuelle à son paroxysme. C'est-à-dire exactement la conception que nous avons, nous, contemporains, enfin celle qu'on nous sert en tout cas, de cette fameuse doxa, c'est d'aller au bout du bout du bout de... Je contrôle tout, ce que je veux, je peux. Je maîtrise de bout en bout ma vie. C'est si vrai, vous parliez de l'IVG, mais on peut parler de l'euthanasie bientôt. Je maîtrise tout, je suis Dieu, je suis mon propre maître. En fait, elle est son propre maître. Et elle est ivre de cette fausse liberté. Elle va très loin, c'est la courtisane, dans un premier temps de sa vie, avant sa conversion, avant qu'elle répande larmes et parfums sur les pieds de Jésus, et que là... Elle change je dis ça pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas
c'est juste parce que pour que nos auditeurs, justement, les choses soient claires, vous la traitez en fait trois personnes en une.
En fait, je la traite comme la théologie occidentale. Marie-Madeleine, c'est trois visages qui traversent l'Évangile: la pécheresse anonyme de Luc, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare et l'amie de Jésus, donc la disciple, et puis Marie de Magdala, celle à laquelle en fait on fait référence immédiatement dans notre esprit, mais c'est plus large, au pied de la croix, et puis celle à qui apparaîtra le Christ au premier jour au matin de Pâques, et qui ira porter la bonne nouvelle, donc la missionnaire, on va dire. Et bien, ces trois visages n'en font qu'un pour la théologie occidentale, en tout cas. Alors, certains historiens remettent en cause, mais moi ça m'intéressait justement ces trois visages, parce que, et je les avais étudiés quand j'étais venue d'ailleurs en parler sur votre antenne, je l'ai étudié justement, ces trois visages en un, qui sont donc Marie-Madeleine, parce que pour moi, ça dessine véritablement le parcours de cette femme qui va d'abord être dans un éros un peu triomphant, la courtisane, ivre de cette fausse liberté dont je parlais, individuelle.
Qui n'existe que dans le regard des hommes aussi.
Qui existe que... Alors donc justement, qui est-elle libre? C'est la question que je pose dans le livre. Je lui pose, en tant que femme moderne, je m'adresse à elle qui pour moi est très moderne dans cet aspect-là de sa vie, dans sa première partie de vie. Je lui dis, mais... tu vas au bout de quelque chose, mais est-ce que tu es libre, en fait? Est-ce que tu t'enfermes pas d'abord en toi-même, dans ton propre ego, dans cet ego hypertrophié, et puis aussi dans le regard des hommes, puisque la courtisane, tu es dans une course à la séduction, et combien de femmes, je pense aux réseaux sociaux notamment, de femmes et d'hommes d'ailleurs, sont dans cette course actuelle à la séduction, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui est très enfermante, et surtout qui restreint, la relation amoureuse et sexuelle à finalement une consommation, un rapport de consommation, ce qui est à mon avis, la sexualité et la relation amoureuse, la relation à l'autre, est infiniment, évidemment, plus large et infiniment plus belle et lumineuse que cet aspect-là qui est, voilà, on peut pas réduire la relation amoureuse à un rapport de consommation sexuelle.
Alors pour vous deux, finalement, Cécilia et Michel, l'essentiel, c'est de retrouver sa liberté dans la liberté de Dieu.
Oui. Ben, c'est ce que Marie-Madeleine comprend, en fait.
On va le voir.
Voilà.
On va le voir. Deuxième étape de votre retraite, donc, Michel Cole, dans Retrouver la liberté spirituelle. La prière, bien sûr, ça c'est quelque chose de fondamental. Elle permet, dites-vous, de voir avec l'œil du cœur les êtres et les réalités avant d'exprimer un jugement. Je voudrais vous entendre juste quelques mots dessus.
Je suis très marqué par ma fréquentation des moines et des moniales, c'est incontestable. En vous écoutant, d'un seul coup, je voyais le visage d'une moniale qui m'a beaucoup marqué, une carmélite qui m'a beaucoup initié à cette prière du regard. Parce que quand elle regardait, elle avait les yeux plissés comme ça et ses sœurs lui disent toujours « Mais ne vous inquiétez pas, elle plisse ses yeux, c'est pour mieux nous voir. Mais c'est pour mieux nous voir notre intériorité. » C'est comme ça. Et quand les sœurs arrivaient le matin au réfectoire, elles se disaient « Oh, bah celle-là, elle n'est pas de bonne humeur. Celle-là, oh, ça ne va pas. Celle-là, il va falloir que j'aille la voir. » Et c'était extraordinaire. J'en parlais avec un ami cette semaine. Et elle m'a appris cela. Elle m'a appris cela, c'est-à-dire Mère Marguerite, citons-la. Elle m'a appris cela, oui. Elle m'a appris cela. Oui, c'est une de mes maîtres spirituels. C'est-à-dire que je crois que la prière... ouvre le regard intérieur. Je parlais tout à l'heure du fond de l'air qui est en nous, et il y a aussi ce regard intérieur, ce troisième œil, comme diraient des amis asiatiques. Enfin, cet œil qui voit plus que votre œil physique, enfin, organique.
L'œil du cœur.
C'est l'œil du cœur. On parle souvent de l'oreille du cœur, mais moi j'aime bien parler du regard du cœur. On parle de l'oreille du cœur. Saint Benoît parle de l'oreille du cœur, la vie bénédictine. Mais il y a aussi un regard du cœur et qui se manifeste par, très simplement, par un regard plein de tendresse, plein de bienveillance. Vous savez, on le sent quand on
rencontre quelqu'un. On en a tellement besoin.
Oui, plein de bienveillance, pas de jugement, et puis pas de présupposés. Voilà, alors c'est... On va dire que vous êtes candide, monsieur, parce que parfois on peut rencontrer gens qui ont des regards qui sont fermés. Oui, et bien les regards fermés, qu'est-ce que vous voulez s'ils sont fermés, on ne peut pas y rentrer, par la force des choses. Donc ça, c'est comme ça, c'est douloureux. Mais je crois que la prière est une école du regard. C'est incroyable. Moi, j'ai été fasciné par les regards des moines.
C'est joli,
et des moniales.
Votre expression.
Oui, oui. Non, mais c'est fascinant parce qu'ils prient énormément, 7 fois par jour, enfin, plus la prière intérieure, plus... Et c'est vrai que quand vous êtes en tête-à-tête avec une moniale ou un moine, vous regardez son regard, le regard est comme une perle précieuse, il est ciselé par toutes ces heures de prière. Vous savez, il y a un orfèvre invisible qui a ciselé leur regard. C'est celui avec qui ils se sont entretenus pendant des heures. C'est-à-dire, la prière, c'est une conversation avec Dieu.
Mais vous le retrouvez réellement chez toutes les moniales, chez tous les moines?
Enfin, beaucoup, en tout cas beaucoup beaucoup de ceux que j'ai rencontrés. Sans doute qu'il peut y avoir des cas où ça, c'est moins perceptible. Mais en tout cas, c'est vrai que très souvent, chez des grands priants, ils ont cette qualité de regard assez merveilleux.
Qui se reflète finalement c'est merveilleux, à l'extérieur. Ouais. Alors, la prière découle aussi quelque chose que vous aimez énormément, et nous aussi ici, la poésie.
Oui.
Voilà, cette poésie, et vous citez d'ailleurs Gilles Baudry, ce moine poète magnifique, au sujet du Christ, qu'il dit...
L'abbaye de Timadoc.
Voilà, sa vie, donc la vie, pour lui, le Christ, sa vie et son message ont une portée poétique fulgurante. Il voit même dans le Christ, il va jusqu'à voir dans lui, le plus grand de tous les poètes.
Ouais, le poète du monde. On l'appelle le poète du monde dans certains cercles poétiques. Mais je crois que, vous parliez de la prière est une forme poétique. C'est une expression poétique de la foi. La prière, normalement, n'est pas là pour démontrer quelque chose. Elle est un cri. Regardez les psaumes. Pour moi, ce sont des grands poètes qui ont écrit ça. Le mot est juste. La musicalité est parfaite. Moi, je suis très sensible à la justesse du mot. On sent bien que dans un... Alors, il y a les traductions, bien sûr, mais le mot choisi, ce n'est pas un autre. Hein. C'est vraiment la qualité du mot, la résonance spirituelle de telle ou telle phrase. C'est magnifique. Et je pense que les poètes sont les grands ouvreurs des chemins à venir de la foi. Je pense qu'on a besoin des poètes, des artistes, des peintres, des musiciens, des danseurs, des danseuses, de plus en plus, pour retrouver les mots simples de la foi, les mots qui parlent au cœur. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté que peut-être nos institutions religieuses trouvent sur leur chemin actuellement, c'est qu'elles ont du mal à toucher parfois le cœur des gens. Alors, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de... Mais on ne touche pas le cœur. Or, le Christ, tout au long de son ministère, qui a duré peu de temps, même pas 3 ans, à peine, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte des paraboles. Les Béatitudes, mais c'est un poème magnifique. Il a un rapport poétique aux autres. Il est poème lui-même, c'est un poème. Et il communique par de la poésie. Ses gestes, Marie-Madeleine, le geste avec Marie-Madeleine, qui va être lapide, qu'on va lapider, il s'accroupit, Cécile le décrit très bien, puis il dessine, sable. On ne sait pas ce qu'il dit, on s'est écrit, on ne sait pas, c'est un mystère. Là, il y a l'enfance spirituelle, c'est un enfant, ça, qui s'accroupit, puis qui fait des dessins avant de répondre. Moi, je vois mon petit garçon faire ça, hein, quand on lui parle, il fait des dessins. Il faut être un poète pour faire ça. Et là, vous touchez ceux qui vous voient, ceux qui vous regardent. Et ils comprennent beaucoup plus que des fleuves de discours. Alors, je dis ça parce que j'ai écrit beaucoup de livres, donc je me dis parfois, je suis bavard. Mais c'est vrai que pour toucher le cœur des gens, rien ne vaut un geste, un regard ou une poésie.
Alors justement, je vais pas vous citer plus, parce que là vous en avez déjà dit beaucoup au sujet de la poésie, mais j'avais relevé notamment que le poète, finalement, c'est une jolie expression, consiste finalement à se comporter en agitateur de lumière là où règne l'obscurité.
Oui, tout à fait.
C'est très beau. Et Cécilia, je crois que pour vous aussi, finalement, vous parlez du Christ aussi et de son langage poétique.
Tout à fait, j'ai vu ça.
J'en parle à un moment donné, oui. Parce que c'est vrai que enfin, le Christ, mais la Bible en général, nous parle en métaphore beaucoup. Donc, parce que c'est très compliqué de traduire finalement le... Qu'est-ce que c'est la relation à Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Et finalement, le Christ, oui, parle en parabole parce que justement, il y a peut-être que la poésie qui peut traduire ce sentiment du beau, ce sentiment du grand. Comment saisir le beau? Comment saisir le bon? Comment saisir le juste? C'est très difficile par les mots. Donc peut-être que les métaphores, les images et donc la poésie, parce que c'est très poétique la Bible hein, et les évangiles sont très poétiques.
Le passage. Son langage poétique s'adresse à la part en eux qui comprend tout quand ils se laissent saisir et émerveiller par la vie qui dialogue avec eux dans l'intime.
Merci.
C'est
Michel.
Du Cécilia Duterre.
Alors, un bobino pourrait illustrer cela.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Alors, chers auditeurs, nous avons un message.
De la part d'un auditeur, qui de nous n'a connu ces minutes muettes qui séparent les lèvres pour réunir les âmes? Il n'y a pas de silence plus docile que le silence de l'amour. Et c'est vraiment le seul qui ne soit qu'à nous seuls. Je remercie Pascal Borère pour son émission passionnante.
Et je remercie ce magnifique poète que je reconnais, que je salue bien chaleureusement.
Beau témoignage,
oui. Nous avons également un monsieur qui alors commence par un compliment. Excellente émission, merci beaucoup cher auditeur. Mais comment pouvez-vous amalgamer les trois Maries pour justifier votre roman théologique sans extrapoler et déformer les évangiles? Vous y avez un peu répondu.
En fait, c'est pas moi. Hein. Je n'invente rien. Actuellement, l'Église reconnaît dans les trois Maries, dans ces trois visages de Marie. Alors, je reprends la pécheresse anonyme, Marie de Béthanie. Et puis Marie Magdala, un seul et même visage, Marie-Madeleine. Mais à la limite, je dirais, je ne suis pas théologienne et je ne suis pas historienne, mais cette thèse-là, elle m'intéresse en tant qu'écrivaine, en tant que romancière, en tant qu'essayiste, parce que précisément, encore une fois, ces trois visages, pour moi, c'est trois étapes de la vie de cette femme. La pécheresse, c'est l'éros triomphant dont on parlait tout à l'heure, et puis la conversion. Il y a une conversion, elle vient répandre ses larmes et parfums aux pieds de Jésus. Et là, elle ouvre une nouvelle ère de sa vie. Elle va être l'amie, la disciple terrestre du Christ. Et dans cette belle amitié, effectivement, avec le Christ, il y a toute la relation, justement, de l'homme et de la femme, mais qui n'est pas, justement, fondée sur l'éros, mais sur la philia. Donc, cette belle relation de complémentarité, même si ce n'est pas parfois dans la doxa. Pour moi, un homme et une femme, ils sont complémentaires. Et donc je parle beaucoup de ça dans le livre, à travers la figure de Marie-Madeleine. Et puis troisième partie, Jésus va lui apparaître au jour de Pâques, et puis qu'elle va aller porter cette bonne nouvelle, elle est missionnaire, mais elle ouvre aussi son cœur à Dieu le Père, à travers l'amour qu'elle porte au Fils. Elle va s'ouvrir à l'amour du Père avec un grand P, et donc à l'agapé, à l'amour d'agapé, l'amour universel.
Et devenir une mystique.
Et elle devient, elle finira sa vie effectivement à la Sainte-Baume. Et elle nous. Voilà, mais c'est ce qui est intéressant, que ce soit vrai ou non, que ce soit théologiquement peut-être contestable par certains ou historiquement contestable, c'est pas tellement ça le problème, c'est que ces trois visages sont intéressants parce que c'est trois étapes effectivement. Et trois étapes que souvent nous traversons nous-mêmes sans tomber dans la caricature, mais effectivement, l'éros, la filia, l'agapé, alors après c'est mêlé, hein, dans nos vies c'est mêlé, mais parfois effectivement à certains âges on est plus dans l'éros ou la filia ou l'agapé, et c'est pas antinomique ces trois amours-là, normalement on les fait respirer, justement, je pense à Michel, on les fait respirer en nous, effectivement.
Je trouve ça très bien vu de la part de Cécilia d'avoir, à travers ces trois personnages, en effet, que la plupart des théologiens aujourd'hui ont réunifié en une personne, les trois âges de la vie. Je trouve ça très, très intéressant.
Trois amours,
trois manières d'aimer. Oui. Et je trouve ça très intéressant parce que là aussi, c'est une forme de. Pour celui qui lit ce livre-là, on a comme une école, je ne dirais pas une école de l'amour, mais une école de la maturité affective. Comment on peut grandir. Faire grandir son cœur, finalement. Parce qu'au départ, le cœur, il est tout petit. Hein. D'une certaine manière, on a envie...
Et l'ego est énorme, prend toute la place.
Mais on a un cœur tout petit. C'est-à-dire, tout petit pour soi, quoi. Hein. On veut tout... Voilà, c'est le plaisir pour soi, c'est tout ça. Et puis, finalement, avec le temps, on grandit, quoi. Je trouve que il y a un très beau chemin, là.
Alors, j'en reviens à votre livre. Juste pour terminer, donc, Michel Cole, Retrouver la liberté spirituelle, la cinquième étape est intitulée « C'est la nécessité du Christ ». Je crois que je ne peux pas vivre sans lui. Je dirais juste peut-être une chose pour passer maintenant, parce que le temps file, comme d'habitude, et surtout en votre compagnie. Vous dites « Jésus n'est pas une philosophie, il est l'incarnation de l'amour divin, un amour paroxystique qui fait qu'à son contact, on peut devenir soi-même plus libre, plus sain ». Et plus humain. Alors, une magnifique illustration de cela ressort donc de ces deux figures emblématiques, celle de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine, donc auxquelles vous, Cécilia Duterre, vous avez consacré votre dernier ouvrage au titre magnifique, hein, « Aimé d'un cœur de femme, en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine », donc publié aux éditions du Cerf. Alors, il s'agit donc d'un essai méditation très abouti, j'ai trouvé, intime, vous livrez aussi beaucoup, puissant, presque osé, puisque vous adressez à ces deux femmes, à ces deux figures, et comme vous l'avez dit, archétypes des évangiles, donc en les tutoyant, mais ça, nous en avons parlé tout à l'heure, et nous avons vu que c'était parce qu'elles étaient deux sœurs pour vous. Et chose très importante, et je tiens à vraiment à insister dessus pour nos auditeurs, Vous ne les mettez jamais sur un même pied d'égalité, vous gardez toujours la dimension iconique de la Vierge Marie. Ça, c'est important. Alors, on peut être dérouté au départ par cette association, mais lorsqu'on vous lit, eh bien, on comprend et on apprend à voir d'une autre façon, finalement, leur spécificité et leur complémentarité dans leur relation et leur amour du Christ. Hein. Et vous vous appuyez sur des moments clés des évangiles où elles figurent. Donc en cela, vous êtes tout à fait juste. Et j'ajouterais aussi que ça prouve, hein, vous avez dû fournir un travail monumental parce que c'est quand même pas quelque chose d'évident à faire. Donc bravo. Et vous montrez qu'elles peuvent être des guides pour notre humanité à travers une féminité libre et accomplie qui affirme, donc, comme vous le disiez, la primauté de l'amour en toute chose, à travers donc, ces sujets brûlants actuels que nous avons commencé à évoquer. Vous êtes dans cet objectif-là, c'est votre objectif. J'ai résumé là où vous voulez rajouter.
magnifiquement bien, en fait, c'est vraiment l'objet du livre. En fait, il découle aussi du précédent, c'est-à-dire dans L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine. Donc, je reprenais ce parcours-là dont je viens de parler, en trois étapes, et puis, mais c'était très romancé, mais en même temps, je m'appuyais complètement sur les évangiles et sur ce qu'on sait aussi de la vie de cette femme ensuite. Mais c'est vrai que tout d'un coup m'est apparu, d'abord j'ai fait beaucoup de conférences sur le personnage de Marie-Madeleine, qui est très énigmatique, hein, souvent, qui plaît beaucoup, c'est un personnage qui intéresse beaucoup les chrétiens et au-delà des chrétiens, les gens en général.
Et auquel vous-même, vous êtes très attaché.
Moi-même, je suis très attachée, effectivement, parce que ce parcours me semble très intéressant et très à la fois incarné et moderne, et hyper moderne, et que ce personnage a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Et par mes conférences, je voyais à quel point je disais des choses, en fait, que je n'ai pas pu dire dans le roman. Et surtout, à quel point aussi, tout d'un coup, m'est apparu le fait que la Vierge Marie, en ce qu'elle est justement antinomique, au départ, en tout cas, complètement antinomique. C'était comme si la Bible nous donnait, pour moi ça m'est apparu avec évidence tout d'un coup, comme si la Bible nous donnait deux femmes en miroir inversé à méditer, en fait. Et je me suis dit, ce serait intéressant non pas de les étudier séparément, mais l'une en regard de l'autre. Donc c'était ça le...
En vous adressant chacune.
En m'adressant chacune, avec mes yeux de femme moderne. Oui. Et à travers ces deux personnages emblématiques, l'une iconique, que je garde comme une icône, vous avez tout à fait raison, que je ne mets pas sur le même plan Marie-Madeleine, mais en même temps, elles sont effectivement complémentaires aux côtés du Christ, et aussi, et elles se rejoignent, et elles communient dans cet amour qu'elles lui portent, inconditionnel. Donc, elles ont quand même beaucoup de points communs aussi, après on voit,
voilà, on va le
et
voir.
Surtout dans une deuxième partie de vie, enfin, après, une fois que Marie-Madeleine est aux côtés du Christ, et a vraiment ouvre une nouvelle ère de sa vie où elle est plus du tout où elle comprend en fait qu'elle s'est totalement enfermée sur elle-même et dans le regard des hommes, qu'elle est emprisonnée dans cet ego, et bien finalement, et là on revient au thème de la liberté, qu'est-ce qui la libère? C'est le regard de Jésus, parce que le regard de Jésus, ce n'est pas un regard d'homme de séduction, mais c'est un regard d'homme tout court, d'être humain, et d'homme aussi, en tant que, justement, complément, sur cette femme. Et il lui dit, tu peux être beaucoup mieux que cette caricature de femme que tu nous tends, tu peux être beaucoup mieux que ça, tu peux être toi-même. Et donc revenir, j'écoutais Michel, revenir à ce centre, à cette vérité de toi, de la femme qui est en toi, et qui est bien plus belle, bien plus grande que cette caricature que tu as voulu être en allant au bout de cette liberté-là, individuelle. Et il y a une liberté plus grande, voilà, je te l'offre. Et elle le comprend progressivement, mais elle le comprend. Et c'est là qu'effectivement, elles vont pouvoir aussi, Marie et Marie-Madeleine, moi je les fais se rejoindre
au banquet. Alors si vous le voulez bien, on va en parler. On va juste faire une toute petite pause pour nos auditeurs.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration. Du jeudi 18 avril 24, dirigé par Pascal Borer, assisté Michel, le thème de l'émission est « Lorsque liberté, amour et amitié entrent en résonance ». Nos invités sont Cécilia Duterre, romancière et essayiste, pour son ouvrage « Aimée d'un cœur de femme, en dialogue avec Paris et Marie-Madeleine », publié en début d'année par les éditions du Cerf, et Michel Kuhl, journaliste de presse écrite, de radio et de télévision, et auteur de deux ouvrages récemment publiés, « L'échappée belle du pape » édité par les éditions Casar et « Retrouver la liberté spirituelle » publié chez Salvatore.
Merci beaucoup Michel. Donc Cécilia Duterre, revenons à votre ouvrage « Aimer d'un cœur de femme en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine » aux éditions du CERF. Il y a vraiment un double cheminement, une double originalité. Donc le fait d'associer, en tout cas de faire cheminer, se rejoindre d'une certaine façon, comme on va le voir, ces deux femmes complètement radicalement différentes, ça n'avait jamais été étudié, présenté en tout cas comme ça. Donc vous avez oser, mais encore une fois de façon très respectueuse, hein, on est bien d'accord. Et puis l'autre niveau de compréhension, c'est que vous partez d'elle pour parler de situations actuelles tout de même fondamentales et très sérieuses et brûlantes pour en arriver à la condition une condition féminine et une féminité réellement aboutie.
Ben, je trouve qu'elle nous tente finalement. La figure de Marie, elle est aussi. Là, on a beaucoup parlé de la figure de Marie-Madeleine, qui est intéressante.
On va parler de la figure de Marie, d'ailleurs,
Sur la liberté. Mais la figure de Marie, elle est aussi très intéressante quant à la maternité.
Voilà.
Puisque la maternité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle est quand même assez malmenée à notre époque. Beaucoup de femmes ne veulent plus être mères et le revendiquent. Il y a cet aspect d'IVG dont vous avez parlé. Et surtout, on voit la maternité comme une contrainte, en fait, comme un enfermement de la femme, comme quelque chose. Et là, je trouve que les mouvements d'émancipation féminin, qui par ailleurs ont leur justification. Enfin, on peut pas, moi je ne mets pas tout à la poubelle, pas du tout. Mais sur cet aspect-là, elles auraient pu prendre un autre angle, hein, c'est-à-dire considérer que la maternité, c'est jusqu'à nouvel ordre, seule une femme peut porter un enfant. Donc ça, c'est une expérience singulière en tant que telle et exceptionnelle, puisque l'homme ne peut pas porter qui caractérise en tout cas vraiment la condition féminine, et que en cela c'est une puissance aussi féminine très importante qu'on aurait pu exalter plutôt que de dire c'est une contrainte, parce que alors effectivement la charge des enfants repose encore beaucoup sur les femmes, parce que la répartition des rôles, parce que dans l'éducation il y a encore beaucoup, c'est le fameux terme de charge mentale que je déteste, mais je le mets entre guillemets puisqu'on en parle, on nous serine ce terme. Alors effectivement la charge mentale éducative, elle porte beaucoup encore trop sur la femme, mais plutôt que de dire justement, essayons de remédier à cette répartition, faisons qu'elle soit plus égalitaire, comment on peut aménager, même par la loi, par les dispositifs, et puis bon, d'une façon générale en parlant, par une réflexion de fond, en fait on prend le problème à l'envers, on dit la maternité c'est contraignant,
on n'en veut pas,
et du coup on n'en veut pas. Et or, alors là je parle aussi de moi, mais je parle de toutes ces femmes, mes sœurs, je dis, mais enfin, la maternité, quand même, ça n'est pas qu'une contrainte, c'est quand même une expérience. D'abord, la grossesse en tant que telle, c'est une expérience magnifique, lumineuse. On porte la vie, enfin, c'est quand même pas rien. Et puis, c'est notre spécificité. Et surtout,
notre vocation
aussi. Sans doute, alors, ça, vous allez très loin, là. Là, vraiment, vous êtes antidoxa en disant ça. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que c'est notre vocation, parce qu'on peut effectivement être femme autrement qu'en étant mère.
Oui, c'est vrai, il y a une fécondité qui est autre
bien
aussi.
Bien sûr, on peut porter du fruit bien autrement. Moi, je n'irais pas dans le sens inverse radical non plus, de dire c'est un passage obligé. Bien sûr qu'une femme peut ne pas avoir envie de faire des enfants. Mais ça reste quand même une expérience, je pense, de l'altérité absolument sublime. Et on n'est pas pareil avant et après. L'altérité qu'on porte, et puis ensuite on se sépare, dans la délivrance on se sépare de cet enfant, et on doit apprendre, alors le père aussi, mais à comprendre qu'il est autre, il est vraiment autre, et qu'il a son cheminement, et la Vierge Marie aussi doit comprendre ça, c'est-à-dire que de la mère terrestre, elle doit comprendre quelle est la Théotokos, quelle est la mère céleste, et que le Christ, il a sa destinée en Dieu, et que il va aller même jusqu'à la croix, il va falloir qu'elle comprenne aussi tout ça. Et elle nous apprend, nous, parents, avec nos enfants oui. qui ne sont pas des Christ, mais qui sont des joyaux aussi, à les laisser voilà, cheminer sur leur propre destinée. Et ça, c'est aussi un très bel enseignement. Il y en a bien d'autres. Hein,
je vais vous citer, parce que voilà, ça rejoint ce que vous venez de dire, mais j'aimerais quand même vous citer pour que nos auditeurs aient une idée de votre style aussi, de votre très belle écriture. Donc une fois, là c'est ce qui est vraiment très personnel, vous vous livrez. Une fois mes filles nées, je peux témoigner avoir découvert en moi un puissant fond de tendresse qu'aucun être avant elle n'avait su révéler. L'amour oblatif, inconditionnel, illimité que je ressens à leur égard me fait approcher humainement l'amour infini que Dieu éprouve pour les hommes. Et ensuite, vous évoquez cette altérité qui permet effectivement de tisser des liens pour se connecter à l'autre, puis se séparer donc de l'être, comme vous le dites, et finalement qui permet, c'est un mouvement, un double mouvement, donc on est connecté, on se sépare, mais on reste quand même ensemble, en l'occurrence la Vierge Marie par la prière, et pourquoi pas aussi nous, femmes chrétiennes, hein, bien sûr, ou autres, par la pensée, tout simplement, et en cela, cette altérité, elle est dans toute relation humaine.
Absolument. Et la Vierge Marie, si on regarde les évangiles, elle est peu présente, en fait, oui. aux côtés du Christ, physiquement, je parle. Et Marie-Madeleine est plus présente en tant que voilà, disciple. Elle suit le groupe des hommes. Il n'y avait pas qu'elle, d'ailleurs. Il y avait d'autres femmes. Mais elle est présente par la prière, comme vous l'avez très bien dit. Et elle nous apprend, justement, cette... présence, absence de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire comment, par la prière, on fait revenir Dieu à nous dans notre conjoncture terrestre. C'est-à-dire, c'est un aller-retour, la prière, entre la terre et le ciel tout le temps. Et finalement, ça nous habite au quotidien. C'est ça qu'elle nous apprend aussi, la Vierge Marie, dans cette absence, présence du Fils. Mais elle est quand même présente, elle prie pour lui. Elle appréhende la présence, absence du Père, avec un grand P. Et elle nous apprend aussi, on parlait de la prière tout à l'heure, combien justement aussi dans ce mouvement-là, entre la terre et le ciel, dans cette méditation, dans cette prière méditative, on se nourrit, on s'aère, et on revient dans son centre, dans cette liberté intérieure dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que nos deux livres, en fait, ils entrent en résonance l'un et l'autre, je trouve.
D'où le titre de l'émission.
Ben voilà, bien trouvé. Hein.
Merci. Marie, la mère de Jésus, hein, comme on a vu, et puis Marie-Madeleine, elle, l'ami. Alors, l'ami, l'ami est en l'occurrence l'élu. Mais avant de parler d'elle, je voudrais, Michel Cole, aussi voir avec vous le fait que l'amitié, on parlait de l'enfance tout à l'heure, l'amitié est aussi très importante et figure dans vos deux ouvrages, hein, vos deux, à la fois dans le roman. Elle est essentielle, fondamentale, la filia, voilà. Et puis aussi, on voit, vous citez le pape Paul VI, pour lequel les amitiés humaines avaient une place primordiale hein, dans sa vie. Et puis Charles de Foucault aussi, qui disait, vous le citez, c'est l'amitié qui évangélise. Et là, je pense aussi à Blaise Pascal. Blaise Pascal en parle aussi.
Absolument.
Voilà. Un moyen évangélisé
un homme
avec.
De grande amitié aussi.
Voilà, absolument. Ah ouais.
Je crois que l'amitié, oui. Mais je reviens souvent à dire que quand on me demande « mais c'est quoi être chrétien ?», je réponds souvent « c'est essayer d'être l'ami du Christ ». Parce que lui, je sais qu'il est mon ami, ça je le sais. Moi, est-ce que je suis son ami? Je ne sais pas.
Il nous a appelé ses amis.
Oui, c'est lui qui nous a appelé ses amis. Est-ce que nous considérons comme un ami? Je pense que certains jours, peut-être pas. On n'est pas toujours au top. On n'est pas toujours là quand lui, il est là. Et donc je pense parce que l'ami, il est là. Quoi. Hein. C'est nous apprendre à être là. Je crois que le chrétien, c'est celui qui est là. Ça paraît tout bête, c'est pas facile d'être là. C'est pas facile d'être là. Et pour moi, l'amitié, pour moi, je crois, c'est peut-être un mot peut-être à remettre en selle dans notre société contemporaine, où vous savez qu'un des plus grands fléaux de notre société aujourd'hui, c'est la solitude. Beaucoup de gens vivent des solitudes contraintes, obligées, non consenties. je sais pas, le nombre de millions de personnes à Paris qui sont seules, mais vraiment seules. Et je trouve que là, il y a un champ de mission, si je puis dire. C'est un mot très, très ecclésial, mais je crois que l'amitié, c'est un mot qui peut résonner très, très fort aujourd'hui dans la spiritualité chrétienne. On ne peut pas vivre sans amitié. On peut vivre sans boue. Bon, on a besoin de boire, de l'eau, hein, pour vivre organiquement.
Manger un peu aussi.
Et manger un petit peu aussi. Mais pour vivre, pour que le cœur se dilate, pour savoir aimer d'un cœur de femme ou aimer d'un cœur d'homme, on a besoin d'amis. Enfin, je pense que c'est... On a besoin d'amis comme on a besoin de pain, quoi. Voilà, on mange du pain, on a besoin de pain d'amis.
Alors, Cécilia, donc Marie-Madeleine, l'amie, l'élue même, vous allez dire jusqu'à... Donc elle est l'élue, elle est sauvée par Jésus. Et là, vous écrivez, il t'a sauvée de la dépression dans laquelle tu t'enfonçais en ouvrant ton être à la grande vie de l'esprit. Depuis lors, tu abrites en ton cœur une part de la vastitude céleste dont il est l'incarnation et tu dialogues avec ce Dieu qui se révèle à travers lui. Et là, j'ai pensé à la figure d'Étienne Soum.
Ah oui. Bah oui, bien sûr. Ah c'est deux, c'est deux. C'est Marie Madeleine pour moi à 2000 ans d'écart. Ce sont deux femmes juives. Alors par contre, elles vont avoir un même parcours. Elles vont passer de l'éros par la philia, puis à l'agapé. Après, oui, ces deux figures. La comparaison peut s'arrêter là quand même, Marie Madeleine, elle va rencontrer le Christ, c'est quand même pas rien. Oui. Est-il soum, elle aura aussi un passeur, mais un petit passeur humain qui sera son psychothérapeute. Mais
et puis elle ne rencontrera pas le Christ. Elle aura plus un rapport avec un.
Alors
Dieu.
Elle n'était pas chrétienne. Voilà. Après, elle a été beaucoup nourrie quand même aux évangiles, à saint Augustin, à la Bible, même l'Ancien Testament. Mais elle a effectivement d'autres sources de nourriture confessionnelle, si j'ose dire. Et on ne peut pas l'enfermer dans une religion, est-il soumis. Elle a quand même un parcours assez, je trouve finalement, de passion christique. Mais ça, c'est parce que moi, je la vois avec mes yeux de catholique.
Michel ?
Non, c'est simplement l'évocation par Cécilia de Madeleine devant le tombeau vide, de son hébétude, enfin de sa grande surprise, son étonnement. Et ça, j'ai pensé à Étienne Soum. Ouais. J'ai imaginé Étienne Soum devant le tombeau.
Ah oui ?
Ah oui. Ah oui. Mais c'est parce que c'était Cécilia, je sais qu'elle connaît parfaitement.
Mais, oui, mais c'est, quand j'ai imaginé, on la connaît, on sait qu'on l'a
J'ai imaginé Cécilia devant le tombeau. Et je,
attention, vous la traitez de Marie-Madeleine, là.
Non, mais il n'y a pas de problème.
Non, il n'y a pas de problème.
Au contraire, mais ce sont des visages féminins, Marie-Madeleine comme Étienne Soum, sans avoir... Étienne Soum était très chaotique sur le départ. Oui. Marie-Madeleine était très courtisane, sans avoir pas forcément suivi ce chemin. C'est quand même des cheminements qui m'intéressent et qui me parlent en tant que femme. Parce que,
Marie-Madeleine, vous dites même qu'elle est désaxée.
Elle est décentrée,
décentrée
de son centre.
Mais il y a aussi les hommes, finalement, parce que je pense à saint François d'Assise. Oui. François d'Assise, avant d'être saint, il a mené une vie très dissolue aussi. Saint Augustin.
Même
Charles de Foucault. Oui, c'est pour ça que vous savez.
C'est très humain, finalement.
Ça, et Dieu écrit droit avec des lignes courbes.
Et ce livre s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes également.
Absolument, parce que à travers ces deux figures, on parle aussi de la relation de la femme à l'homme. Oui. Et c'est bien en cela qu'il est... On parlait tout à l'heure de complémentarité, mais on peut... parce qu'en fait, le Christ, qu'est-ce qu'il apprend à Marie-Madeleine, c'est... Et Marie-Madeleine aussi, elle va quelque part un peu aider le Christ, parce qu'il a besoin aussi d'un regard, le Christ, pour aller au bout de cette, quand même... destinée hyper douloureuse. Il l'a vécu, nous on le lit avec 2000 ans d'écart, mais il l'a vécu dans sa chair. Alors il a besoin de puiser dans un regard d'amour.
Sa part et donc, humaine en tout cas. Ouais.
Sa part humaine, bien sûr. A besoin de puiser dans ce regard d'amour que vont lui donner Marie-Madeleine, bien sûr, et aussi Marie, pour aller au bout de ce qu'il a à faire, de ce que lui donne, de la volonté du Père.
Et Jésus, en cela, vous l'écrivez, est un véritable libérateur des femmes, puisque finalement, il a permis cette égalité entre hommes et femmes, ce qui lui a valu aussi lire donc des juifs qui étaient là, qui vivaient à cette époque, et également une justesse justement de relation entre les hommes et les femmes. Pour vous, il l'a exalté, en tout cas, les spécificités propres au féminin et au masculin étaient reconnues par lui, et voire, oui, vous employez le mot exalté.
Oui, mais il n'enferme jamais les femmes dans justement un statut social prédéfini. Ouais. C'est très intéressant, d'abord parce qu'il y a des femmes qui le suivent, qui ont tout quitté pour le suivre. Donc, il a les 12 apôtres, sont des hommes, parce que quand même, on est dans une époque où voilà. Mais beaucoup de femmes ont tout quitté. C'était souvent des aristocrates, d'ailleurs, comme Marie-Madeleine, qui apportait aussi de l'argent pour pouvoir aller prêcher. Il fallait aussi se nourrir. Il fallait, il y avait quand même une infrastructure, je dirais,
des nécessités matérielles. En fait,
exactement. Et puis elle faisait sans doute aussi à manger, enfin elle faisait voilà, mais il enferme jamais, il enseigne ses femmes, il enseigne Marie-Madeleine d'ailleurs, quand on le voit dans cet évangile entre Marthe et Marie, qui est-ce qui a la meilleure part, c'est celle qui se nourrit de la parole, c'est pas celle qui s'active pour faire à manger, c'est important mais c'est secondaire. En tout cas, il faut aussi mettre de la prière, il faut aussi mettre de l'enseignement dans tout ce que l'on fait, en fait, c'est un petit
d'où
peu ça.
L'idée tout à l'heure d'unification aussi.
Absolument, voilà, absolument. Pour moi, c'est un libérateur de la femme à l'époque, parce que justement, il ne porte pas de regard. La femme n'est pas pour lui un objet de consommation sexuelle. Il n'a pas de femme. Et par ailleurs, il n'enferme pas donc celle qu'il côtoie, ni dans leur péché d'ailleurs, parce que Marie-Madeleine, c'est le seul qui comprend qu'en fait elle a de la peine, elle regrette, mais elle a de la peine. C'est surtout qu'il voit le chagrin qu'il y a derrière et l'enfermement sur elle-même. En fait, il voit beaucoup plus loin que sa tristesse. Il plonge au cœur de sa tristesse et c'est pour ça qu'il ne la juge pas. Il lui dit simplement va et ne pêche plus. Ouvre une nouvelle ère de ta vie, c'est pas grave, tu as été ça, tu as compris l'écueil, tu as été au bout de ce cheminement qui t'a enfermé, et ben maintenant, ouvre-en un autre. Et finalement, c'est en cela qu'il nous libère tous, et hommes et femmes confondus,
miséricorde.
Parce que la miséricorde divine, et puis parce qu'il nous apprend, en fait, et on en revient toujours au même sujet, la libération, la liberté, c'est la liberté en Dieu. Et ça nous libère de nous-mêmes, ça nous libère de notre ego, ça nous libère du regard aussi très parfois lourd des autres au sens très large, là, au-delà de la séduction.
Surtout dans notre société,
voilà.
De l'image.
Et ça nous libère parce que cette vastitude-là, on apprend à l'habiter en soi. Et la vastitude de Dieu et la miséricorde de Dieu, elle est magnifique.
Alors, ces deux sœurs en humanité, donc, ces deux cœurs de femmes se rapprochaient, se rejoignaient et communiaient dans l'amour du Christ. Il y a beaucoup de choses que vous évoquez, nous n'aurons pas le temps, puis ce n'est pas le but. J'aimerais vous entendre sur aussi leur foi de femmes, parce qu'elles vont comprendre, contrairement aux disciples, ce qui se passe. Elles vont avoir cette finesse, finalement, de perception de ce qui est en train de se passer.
Oui, on parlait de l'œil du cœur tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. Je pense que, alors après, on ne peut pas faire des généralités, mais il me semble qu'en tout cas, ces deux femmes, elles ont une perception. Et on parlait de la vision aussi. Pour moi, c'est ça, la vision éclairante, la vision pénétrante, c'est une perception. Et elles comprennent par la voix du cœur les événements qui se jouent sous leurs yeux ou de loin, mais Marie elle est avertie quand même, parce que quand même Jésus il a une sacrée notoriété, donc elle connaît quand même, mais elle les hommes qui suivent Jésus, les 12, ils comprennent aussi bien sûr, mais ils sont plus dans la mentalisation, dans la conscientisation. Et d'ailleurs, ils posent des questions beaucoup à Jésus, ils reposent toujours
les mêmes.
Et d'ailleurs, on sent une certaine lassitude de Jésus, surtout à l'heure de la scène. Il redit, mais où vas-tu? Mais je vais vers le Père. Il leur a dit des milliards de fois, mais ils ne comprennent pas. Et parce qu'ils raisonnent encore trop, ils raisonnent avec le mental. Alors que ces deux femmes, elles comprennent que là, il est en train de donner ses derniers vraiment enseignements et que la tragédie, eux ne comprennent, ils comprendront plus tard. Il leur faudra la Pentecôte, le souffle de l'Esprit. D'ailleurs, il le sait, Jésus, puisqu'il leur a, à l'ascension, il leur dit, vous allez encore comprendre plus. Et puis, ça va vous aider pour créer cette fameuse église primitive, pour aller porter cette nouvelle, etc. Ils sont utiles, c'est pas... Voilà. Et là aussi, il y a une complémentarité. Là aussi, je crois que dans la foi, les deux fois sont magnifiques. Oui. Les hommes, ils ont une foi très belle aussi. Mais les femmes, elles ont une foi peut-être plus perceptive, plus intuitive, plus sensitive. Et ces deux formes de foi, elles peuvent aussi dialoguer entre elles. Elles peuvent s'apporter des choses. Et ça aussi, c'est très beau, je trouve.
Il y a une très belle description. Moi, je trouvais ça magnifique. Je crois même qu'on... Je ne l'avais jamais imaginé, et grâce à Cécilia, je la vois. C'est-à-dire la présence de Marie-Madeleine avec d'autres femmes à la scène.
Voilà.
Moi, je trouve que c'est un moment du livre qui m'a vraiment ému, parce qu'on ne parle jamais de la présence des femmes à ce moment très important, hein, le dernier repas, le lavement des pieds, et tout est vu par le regard des femmes. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le récit de Cécilia, c'est à travers le regard de Marie, de Marie-Madeleine. C'est magnifique.
C'est vrai.
Ah oui, c'est une très belle
imagination,
scène.
Mais il y a un vide dans les évangiles. Et ça, j'ai questionné aussi.
Historiquement, beaucoup d'historiens considèrent que Marie et Marie-Madeleine donc, étaient présentes lors de la scène. Ça, je ne l'ai pas inventé. Je me suis appuyée sur... Après, les historiens, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Mais ça, je l'avais lu et à plusieurs reprises. Donc, je me suis appuyée sur... Parce que moi, ça servait mon propos. Mais c'est pas...
En tout cas, ce n'est pas un sacrilège, on peut d'imaginer qu'ils sont à leur table de femmes, bien sûr.
Table des femmes.
Voilà. Ouais. Et que, sûr, ils ne sont pas tous mélangés.
Ce qui est tout à fait compréhensible de la tradition juive, d'ailleurs.
Absolument.
C'est complètement...
Je suis désolée, Benoît me fait signe que nous n'avons plus que 4 minutes, tant de choses à dire. Donc, elles sont présentes ensuite et unies face à l'épreuve, à la croix. Bon, voilà, ça c'était évident. Et puis je voudrais terminer juste par ces deux. Alors Marie, cette mère en deuil qui sait quand même accueillir l'espérance, qui représente la nouvelle Ève, en fait celle qui réconcilie l'humanité avec Dieu, donc fondamentale. Et puis la mère de l'Église, la mère de tous les croyants. Et Marie-Madeleine, donc, à laquelle donc, Jésus apparaît lors de la résurrection, avant donc, c'est les disciples, qui est une missionnaire, vous l'avez dit, l'apôtre des apôtres, qui est un exemple. Donc ça, on l'a bien compris aussi pour nous, ne serait-ce que lorsque l'on doute du chemin à suivre. Bon, là, je ne vous cite pas, j'avais prévu, mais ça, c'est aussi intéressant lorsque l'on... Voilà, on ne sait pas. Bah, finalement, elle nous donne des clés. Et puis, elle, c'est la nouvelle Ève, en ce sens que c'est une Ève renouvelée. C'est une Ève peut-être réparée aussi.
Oui, complètement. Et qui réconcilie avec elle-même et réconcilie avec Dieu, ce qui est lié. Et oui, pour moi, c'est... Alors là, j'utilise le terme de Ève renouvelée, mais il ne vient pas de moi, il vient du père Macaire, qui a écrit un petit ouvrage sur Marie-Madeleine il y a des années, et il parlait d'elle en termes d'Ève renouvelée. Je trouvais que c'était beau parce qu'il y a la nouvelle Ève d'un côté, l'Ève renouvelée de l'autre. On pourrait dire seconde nouvelle Ève, mais là ça aurait été traité un peu sacrilège. Donc Ève renouvelée, c'est un bon terme que je lui ai volé, mais en le citant, bien sûr.
Alors je terminerai l'émission en citant la fin de votre ouvrage, mais qui vous va très bien aussi, Michel Kohl. Écoutez la parole du Verbe fait chair, voici la clé, Marie et Marie-Madeleine, que vous tendez toutes deux de concert aux pèlerins de la terre pour toucher l'amour véritable qui ouvre dès ici-bas la porte des cieux. Alors, ces livres sont des pistes de réflexion dans un monde en perte de repères. Ils sont donc, vous l'avez compris, chers auditeurs, d'une variété, d'une grande richesse. Ils ont beaucoup à nous dire, à nous apprendre, à nous faire réfléchir et réagir, d'ailleurs, comme certains de vous l'ont fait là aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un autre message, mais je n'ai malheureusement pas le temps de le lire. On n'est pas forcément d'accord avec tout, mais ils sont d'une lecture en plus très agréable et encore une fois très complémentaires. Donc, il me reste à vous remercier du fond du cœur, justement, parlons-en. Chère Cécilia Duterre, donc, pour votre ouvrage « Aimer d'un cœur de femme en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine » aux éditions du Cerf, et Michel Kohl pour votre roman « L'échappée belle du pape » donc chez Cazar, et « Retrouver la liberté spirituelle » chez Salvatore. Un mot de la fin ? Très rapidement.
J'ai envie simplement de dire « Se savoir aimer des livres ». Je pense que la trame des trois livres, C'est ce savoir aimer en libre.
C'est cela.
J'aurais le même, oui, aimer dans la liberté et revenir à soi, à sa vérité intérieure, c'est... Voilà, ce sera, je pense, ce dont on a parlé pendant une heure et demie.
Merci infiniment à vous, merci Michel, merci Benoît à la technique, merci au secrétariat, et puis bien sûr, chers auditeurs, grand merci pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous au mois prochain.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration, dirigé par Pascal Maurer, assisté de Michel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 18 avril 2024, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.